Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Annick Dubier, Les dits et les scènes du fait divers, qui est paru aux éditions Dro. Les faits divers sont la plupart du temps méprisés par le champ intellectuel et une partie du lectorat, en raison du traitement qui leur est accordé par les recherches sensationnelles. C'est en raison de leur caractère anecdotique que cette partie du lectorat le méprise. Pourtant, le fait divers est un genre qui remonte au moins au XVIe siècle. Il est maintenant traité par tous les médias, mais avec des choix éditoriaux très différents les uns des autres. Maintenant, Annick Dubier va donc nous parler de son dernier ouvrage. Dans le livre que vous venez de publier aux éditions Dro, Les dits et les scènes du fait divers, vous relevez déjà les origines et les sources d'inspiration qui ont démarré juste après la tradition orale des contes, c'est-à-dire avec les premiers, comment les appelait-on, des gazettes, des feuilles de choux?
On les appelait les occasionnels parce que c'était des feuilles d'actualité qui, à l'époque, paraissaient à l'occasion. On ne connaissait pas encore la presse périodique, donc on savait imprimer désormais. À partir de 1863, on a eu des journaux de masse, mais avant ça, l'actualité était transmise à travers des feuilles isolées, comme ça qu'on imprimait lorsqu'il se passait quelque chose. Puis les faits divers sont apparus dans ces feuilles isolées, qu'on appelait donc des occasionnels. On a commencé à voir apparaître des histoires de moutons à cinq pattes, des crimes, des vols, des comètes, des phénomènes naturels extraordinaires qui paraissaient, qui étaient racontés dans cet ancêtre de la presse de masse, au fond.
Donc ça pouvait être aussi bien être des rumeurs qui prenaient corps dans ces occasionnels, ou est-ce qu'ils se basaient sur des faits qui avaient réellement existé ou imaginé ?
Les historiens ont beaucoup de mal à le dire. On est trop loin pour savoir si ce qui était raconté était vrai. Tout ce qu'on sait, c'est que une partie des nouvelles qui étaient publiées dans les occasionnels étaient parfois réutilisées. Donc, comme ça coûtait cher d'imprimer et de préparer un papier, on le préparait et on l'illustrait de manière à ce que ça soit assez général. Et puis, éventuellement, 3-4 ans plus tard, on pouvait le réutiliser lorsqu'une nouvelle histoire donnait l'occasion de réimprimer. Cela dit, les historiens ont retrouvé, c'est à peu près la seule chose qu'on puisse dire, des plaintes de personnes qui avaient été exposées à un occasionnel, à une histoire de faits divers, et qui avaient dénoncé la personne qui la leur avait racontée. C'était en général les camelots, les gens qui vendaient les marchandises sur les places publiques, ont dénoncé donc les colporteurs qui les avaient racontées parce que ils les ont accusés d'avoir menti. Donc visiblement, on avait déjà une forme de souci de la vérité, mais ça n'a rien à voir avec le souci de vérité, d'objectivité, de rapport des faits rapides aussi qu'on connaît à l'heure actuelle. Peut-être ajouter une petite chose, à l'époque, étant donné les moyens de communication, une histoire racontée au sud de la France mettait un mois et demi, voire plus, à arriver au nord, et donc l'actualité n'était pas non plus la même que celle qu'on connaît maintenant.
Mais dans votre livre, vous avez relevé des exemples de premiers types de faits divers qui étaient particulièrement concis.
Oui, alors celui auquel je pense, c'est un fait divers, cette fois-ci, qui est paru dans la presse. Lorsque la presse est apparue, qu'on a donc vu des journaux paraître périodiquement, à date fixe, on a commencé à parler de faits divers, on a vu apparaître d'ailleurs la locution « faits divers », au début pour désigner des choses un peu aléatoires, comme ça, un peu mouvantes, puis ensuite ça s'est stabilisé dans ce qu'on connaît maintenant. J'ai sous les yeux un exemple qui est paru dans le premier numéro du Petit Journal, qui est le premier journal de masse français. Peut-être que ça vous intéressera de l'entendre pour voir comment on racontait, au fond, à l'époque, en 1863. Je vous le lis.
C'est donc tiré de votre livre?
Oui, c'est d'ailleurs tiré avant tout d'un numéro du Petit Journal que j'ai reproduit. Je cite donc « Avant-hier, à 9h30 du soir, une jeune fille s'est précipitée du quai de Valmy dans le canal Saint-Martin, à hauteur de la rue des Récollets. À cette heure tardive, dans un endroit désert, elle aurait péri sans secours si un heureux hasard n'avait amené de ce côté le sieur Ramon, journalier à Ivry. Malgré l'obscurité, il n'hésita pas à se jeter à la nage et fut assez heureux pour sauver la jeune fille que des soins empressés ranimèrent. Cette jeune fille, qui se nomme Eugénie B., et qui est âgée de 18 ans, sans profession, a promis de ne plus renouveler sa tentative, due, selon sa déclaration, à des peines de cœur. »
Et d'après la fin de cet extrait, on pourrait presque dire qu'il y a une fonction morale dans cette...
Tout à fait. D'ailleurs, cette fonction morale existait déjà dans les occasionnels dont on a parlé tout à l'heure. On soupçonne qu'une partie des occasionnels de faits divers qui étaient écrits avant 1863 dans ces feuilles volantes étaient écrites par des gens d'église qui trouvaient une bonne manière de moraliser, au fond, le peuple à qui ces occasionnels étaient adressés. En 1863, c'est sans doute plus les mêmes enjeux, mais il y a visiblement volonté d'édifier, de donner un exemple et puis de déplorer dans le cas précis qu'une jeune femme aussi jeune veuille mettre fin à ses jours, ce qui en l'occurrence n'est pas autorisé par la morale de l'époque, le suicide.
Et justement, le fait divers a un pouvoir ambivalent de répulsion, de fascination. Et vous relevez dans votre livre que déjà avec le développement des gazettes, le sujet était traité différemment selon qu'il s'agissait de s'adresser à des lettrés ou à une masse laborieuse moins éduquée, moins favorisée.
Alors, à l'époque où le fait divers est apparu, dans les occasionnels, on l'a vu apparaître aussi dans ce qu'on appelait à l'époque les gazettes, qui étaient des parutions, cette fois-ci, qui étaient destinées à l'élite. Pourquoi ? Parce que seule une partie de la population savait lire au XVIe, XVIIe siècle. Les occasionnels, eux, n'étaient pas lus, ils étaient racontés sur la place publique et puis on venait y assister. Même si on ne savait pas lire, on pouvait très bien les suivre. Par contre, les gazettes, eux, qui se vendaient par abonnement, étaient des publications destinées à des lettrés et on y trouvait, d'après ce que disent les historiens, déjà quelques faits divers qui étaient traités avec beaucoup moins de sensationnalisme, sans illustration, alors que les occasionnels, eux, jouaient sur les termes empathiques, comme ça, sur la catastrophe, sur les illustrations sanglantes, etc.
Donc c'était le même sujet qui était traité, sauf que pour les lettrés, il était écrit avec plus de délicatesse.
Beaucoup plus sobrement, je ne sais pas s'il faut dire délicatesse, mais en tout cas les moyens choisis n'étaient pas les mêmes.
On peut dire que les faits divers font aussi partie, enfin, appellent une certaine transgression.
Alors, ce qui est certain, c'est que les histoires de faits divers, en général, racontent une transgression. Puisqu'ils surprennent, puisqu'ils étonnent, puisqu'ils troublent quelque chose, ils sont toujours, au fond, des histoires de transgression à une norme établie, à une règle. Du simple accident de la route jusqu'aux affaires de pédophilie en Belgique avec l'affaire du trou. On a la transgression, alors parfois c'est une norme légale, parfois c'est une norme morale, parfois c'est la transgression d'une norme naturelle. Quand on a des moutons à cinq pattes, c'est quelque chose qui est anormal selon la norme naturelle. C'est un sociologue qui a travaillé sur le fait divers qui a souligné que le fait divers était toujours une transgression à une norme. Il me semble que c'est un élément de définition très important. D'où la surprise, d'où le dérangement et d'où au fond le fait que ça laisse rarement indifférent, même si on n'aime pas ça.
Mais en dehors de la transgression, il y a eu aussi des inventions ou des croyances, puisque ce sont les médias qui ont découvert, si on peut dire, la loi des séries qui en fait n'existe pas. Quand par exemple, un accident à un même endroit se produit plusieurs fois de manière rocambolesque.
Alors en matière de séries, le fait divers se caractérise par le fait qu'on revient souvent sur le même type d'histoire. C'était vrai depuis le XVIe siècle dans les occasionnels où là, on reprenait carrément les mêmes histoires qu'on réimprimait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à intervalles, parce que ça coûtait moins cher, parce que c'était intéressant. À l'heure actuelle, évidemment, c'est plutôt les types d'histoires, des types de scénarios qui se renouvellent, qui se répètent. Ce qui peut être intéressant à souligner en matière de faits divers, c'est que cette répétition, elle vient lorsque parfois on a eu un grand fait divers à un moment donné, prenez l'exemple de l'affaire du trou en Belgique, et que par la suite, dans les médias, on voit réapparaître de multiples petits faits liés à ce grand fait, comme si le fait divers était un tremblement de terre avec des répliques, comme on dit pour les tremblements de terre, c'est-à-dire ces secousses secondaires qui viennent après et qui, au fond, traduisent la préoccupation ou les peurs ou les dérangements que le fait divers a mis en évidence une première fois, lorsqu'il est suffisamment ample, évidemment tous les faits divers n'ont pas cet effet-là, et puis reviennent comme réfléchir sur cet événement.
Mais dans les notions de répétition ou de coïncidence, vous notiez que Roland Barthes, lui, voyait une influence du destin.
Alors Roland Barthes, lui, faisait remarquer que dans les faits divers qu'il avait étudiés, il y avait toujours deux termes qui était relié par quelque chose d'inhabituel. On a déjà parlé d'inhabituel, on a déjà parlé de transgression. Il disait par exemple une grand-mère qui se fait voler son sac et qui court derrière son agresseur, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. De même, un moineau qui provoque un carambolage, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est petite cause, grand effet. Et parmi ces liens inhabituels entre deux éléments, il parlait également des coïncidences. Et il en venait à dire qu'au fond, on pouvait voir dans cette expression des faits divers quelque chose comme l'intervention du destin, d'une force incontrôlable, incompréhensible, à laquelle l'homme, au fond, ne peut que se soumettre.
Toujours, même avec Roland Barthes, je crois que lui attribuait aussi une valeur de purgation, si on peut dire, enfin, c'était pour purger les passions.
Alors ça, c'est une vieille histoire avec les aventures des faits divers. Depuis qu'il existe et depuis qu'il est paru dans la presse de masse, les scientifiques comme moi se sont disputés autour des effets que le fait divers pouvait avoir. Parce que dès le départ, évidemment, ça a choqué. On a trouvé que c'était raconté avec trop de sang, trop de mots exagérés. Et puis on s'est posé la question, et c'est le vieux débat qu'on peut présenter en disant, est-ce que le fait divers favorise la mimésis, c'est-à-dire l'imitation, ou la catharsis, c'est-à-dire la purgation des passions? Est-ce qu'il pousse les gens qui le voient à faire la même chose, en gros, ou est-ce qu'il les aide, au fond, sans le faire, à se débarrasser d'une série de pulsions inavouables, de meurtres, de volonté de détruire l'autre, etc. Ce débat existe depuis très longtemps, les historiens l'ont constaté. On a retrouvé des congrès de 1893, sauf erreur, où on parlait déjà de la mimésis ou de la catharsis, et où on s'interrogeait sur fallait-il interdire oui ou non les faits divers, ou était-il mauvais pour les consciences des gens qui les lisaient. C'est un débat qui persiste et auquel, il faut bien le dire, on n'a pas encore trouvé de réponse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les faits divers, ou l'exhibition de la violence dans les médias. Les scientifiques sont pour l'instant toujours incapables d'affirmer une fois pour toutes, par exemple, que la violence exhibée dans les médias engendre son imitation. De même qu'ils sont incapables de démontrer le contraire. Alors on a des études qui montrent certaines tendances ou certaines autres, mais on n'a pas encore suffisamment pris de temps pour comprendre ces phénomènes et pour pouvoir être tout à fait catégorique par rapport à ça. Donc on n'a pas de réponse, en gros, pour l'instant. Même si ça n'interdit pas de se poser des questions sur le bien fondé de certains faits divers et de certaines de leurs mises en scène.
Mais le fait divers, disons, a une importance quasiment extraordinaire, puisque nombre de philosophes les ont étudiés, leur ont attribué des valeurs il y a plus de deux siècles. Donc c'était l'Église qui distribuait une certaine morale de cette façon. Et aujourd'hui, on continue de lui attribuer une fonction soit pédagogique, soit thérapeutique, c'est-à-dire de savoir, d'après notre réaction, est-ce qu'on est dans la norme ?
Alors, les scientifiques, en général, ont commencé à s'intéresser aux faits divers il y a quelques dizaines d'années. Les premiers qui s'y sont intéressés sont les historiens, qui ont compris qu'ils pouvaient, en étudiant les faits divers, avoir accès à une réalité différente de ce que d'autres sources leur permettaient de voir. Le fait divers ne touchait pas les mêmes catégories de population que les archives officielles, par exemple. Les historiens ont commencé à le travailler, à l'utiliser comme source. Et après eux, notamment les sociologues, vous venez d'évoquer les fonctions du fait divers, beaucoup de sociologues se sont interrogés sur cet objet-là, des philosophes aussi, et puis des linguistes qui ont essayé de voir comment c'était construit. Alors effectivement, en principe, et majoritairement, ce sont les sociologues qui se sont interrogés sur les fonctions du fait divers en disant « mais quelle est la fonction majeure de cette information-là ? » Ça se divise au fond, peut-être que c'est trop simpliste de dire que ça se divise en deux. Il y a ceux qui trouvent que c'est révélateur, qu'on peut y voir notamment un moyen pour les gens de se réunir, de se regrouper autour d'un fait, de discuter entre eux et au fond de trouver un moyen de se souder entre eux. C'est notamment un sociologue qui s'appelle Michel Maffesoli qui avait mis en évidence cette capacité du fait divers à regrouper, à donner, à créer une petite entité qui dure peut-être pas beaucoup plus de temps que ne dure le fait divers, mais qui pendant un temps est une occasion de parole commune, de réunion et de regroupement.
Donc ça permettrait de recréer un contact social, puisque on prétend toujours que dans notre société postmoderne, ce contact est rompu.
D'une certaine manière. Alors évidemment, en contrepartie de ce genre de théorie viendrait le courant beaucoup plus négatif à l'égard du fait divers, chez des gens comme Michel Foucault ou Pierre Bourdieu, qui lui reprochent, sans doute en partie à raison, d'être une information qui distrait de l'essentiel, qui distrait des informations nécessaires à la citoyenneté. Foucault va même plus loin en disant que d'une certaine manière, les faits divers et leur multiplication en particulier peuvent au fond non seulement faire vendre, je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler, ils font vendre des journaux, mais aussi faire vendre par exemple de la sécurité ou de l'insécurité. Par l'insécurité qu'ils créent, ces faits divers pousseraient à multiplier les moyens de se protéger, éventuellement pousseraient au contrôle social et à la répression et à une forme de contrôle aliénant et manipulatoire.
Annick Dubier, vous parliez au sujet du fait divers des remarques de Pierre Bourdieu qui lui attribue un effet antidémocratique dans la mesure où il distrairait l'auditeur, le téléspectateur des véritables problèmes d'actualité économiques, sociaux et autres.
Absolument. Bourdieu est au fond le dernier, peut-être, sûrement pas le dernier, mais un des derniers d'une longue série de détracteurs du fait divers. Déjà à l'époque où le fait divers a commencé à paraître dans la presse de masse, des gens comme Gérard de Nerval se plaignaient de son côté racoleur et de son influence sans doute négative. Chez Pierre Bourdieu, l'intérêt, c'est cette critique qu'il adresse aux faits divers comme une espèce de distraction, de moyen de distraire de l'essentiel. Il parle d'ailleurs à son propos d'une information omnibus, c'est-à-dire une information qui ne nécessite aucune connaissance préalable pour être comprise. Au contraire d'une information politique où il faut connaître un peu le contexte, d'une information économique où là aussi il faut un certain nombre de connaissances. Pour Bourdieu, le fait divers est une information omnibus qui accroche facilement. Ça, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, le fait que ça soit des récits la plupart du temps, c'est aussi une manière d'accrocher plus facilement, de passer mieux. Donc Bourdieu lui reproche en partie d'au fond occuper du temps qui devrait être occupé pour le citoyen par autre chose.
Disons un temps qui serait pris sur le temps de divertissement.
Éventuellement, oui.
Je veux dire, l'information sérieuse est prise sur le temps du divertissement.
Voilà, où le divertissement contaminerait. Je ne sais pas si on peut considérer que les faits divers sont des divertissements. Ils se présentent d'ailleurs très clairement comme des informations. Et c'est bien ça qui fait leur statut un peu particulier au sein de l'information en général. Ça devient divertissement lorsque c'est repris dans un film, dans un livre, comme ça l'a très souvent été, depuis très longtemps d'ailleurs. Au-delà de ça, la critique de Bourdieu est intéressante. Elle peut résonner avec celle de Foucault qui accuse le fait divers non seulement de prendre du temps qui devrait être consacré à autre chose, mais faire peur et donc de susciter des réflexes de défense qu'on peut facilement utiliser. Donc ça, ce sont des critiques qui sont très intéressantes. Et même si moi, je ne me prononce pas radicalement d'un côté ou de l'autre parce que il y a d'autres théories sur le fait divers de sociologues qui viennent souligner que bon ou mauvais, il est intéressant à étudier parce qu'il est révélateur de ce qui se passe dans une société à un moment donné. C'est un très bon indicateur des peurs, des mythes, des préoccupations d'une société à un moment donné.
Mais alors justement, sa multiplication du fait divers et des sujets choisis, est-ce qu'elles peuvent permettre de créer un climat particulier dans l'opinion, c'est-à-dire de permettre une manipulation ?
Je ne peux pas vous répondre catégoriquement. Ce qui est sûrement intéressant de dire, et ce que je peux dire par contre, c'est que cette multiplication des faits divers dans les médias à un moment donné, en particulier d'un certain type de faits divers, on l'a déjà connu. On dit parfois qu'à l'heure actuelle, on voit les faits divers se multiplier. Les historiens nous rappellent qu'au XIXe siècle en France, justement après l'apparition de cette presse de masse, on a vu se multiplier les récits de crimes en particulier. Donc un type de faits divers particulier, les récits de crimes étaient partout. À la une des journaux, dans le cinéma qui était en train de naître, dans les chansons populaires, on en entendra sans doute par la suite, on voyait se multiplier les récits de crimes. Or, les historiens qui ont travaillé sur cette période ne peuvent pas confirmer que les statistiques criminelles augmentaient comme les faits divers augmentaient dans les médias. Donc visiblement, il n'y a pas de rapport direct entre l'augmentation des faits divers dans les médias et l'augmentation des faits dans la réalité. Ou en tout cas, ce n'est pas aussi simple. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'autant au XIXe siècle qu'à l'heure actuelle, il faut les regarder, ces faits divers, parce que à l'époque, le récit de crime intervenait dans une période d'urbanisation, d'approfondissement de la propriété privée, et curieusement, la plus grande partie de ces faits divers mettaient en scène des atteintes à l'individu, des atteintes à la propriété, etc. Donc, visiblement, il nous parlait des représentations de l'ère du temps, comme sans doute il nous parle de l'ère du temps à l'heure actuelle. Et bon ou mauvais, il constitue des sources également pour les sociologues, comme ils ont constitué des sources pour les historiens, parce que, comme le disait un autre des théoriciens qui ont travaillé sur le fait divers, Georges Auclair, le fait divers est révélateur. C'est un miroir tendu à la société dans laquelle il paraît. Ça me paraît aussi intéressant et nécessaire de le souligner.
Et alors ce miroir a pu être utilisé, enfin on s'est reconnu pratiquement, lors des dernières élections françaises où il y a eu énormément de reportages sur des petits crimes, enfin toutes sortes de délits envers la propriété, et qui auraient contribué à faire croire que l'insécurité avait largement augmenté.
Alors ce qui est certain, ce qui a beaucoup frappé lors des dernières élections françaises, c'était ce fameux fait divers paru en ouverture du journal de TF1 d'un vieillard qui s'était fait agresser, qui a fait beaucoup de bruit. Ce que je peux dire à ce propos et qui me paraît intéressant, c'est que le fait divers fait beaucoup de bruit médiatique quand il paraît, pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà évoquées en partie. D'une part, il est surprenant, il est extraordinaire, il déroge à une norme, donc il dérange, il transgresse. Et donc, lorsqu'il paraît, d'autant plus quand c'est des faits divers bien percutants, il fait énormément de bruit. On le voit beaucoup, il prend beaucoup de place. Il prend les unes, il prend beaucoup de centimètres carrés dans les colonnes, si on parle de la presse, il occupe beaucoup de temps d'antenne. Certains, d'ailleurs, se sont amusés à calculer le bruit médiatique que chaque fait divers pouvait faire. En l'occurrence, le fait divers à l'époque des élections a visiblement fait beaucoup de bruit médiatique. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, ça ne correspondait sans doute pas à la réalité, des crimes ou des agressions, mais visiblement, ça correspondait d'une part peut-être à une volonté, difficile de se prononcer, d'autre part à des préoccupations également. Donc la somme de bruit médiatique faite par un fait divers est rarement en rapport avec son importance réelle, entre guillemets. Par contre, elle peut nous informer si on y regarde longtemps et avec soin, ce que je n'ai pas fait sur les élections françaises en question, des tendances, des peurs, peut nous permettre de comprendre parfois ce qui se passe.
Par contre, cette étude, vous l'avez faite à propos des affaires qui ont éclaté en Belgique. Et est-ce que je pense à l'affaire Dutroux, qui aurait, paraît-il, changé les comportements autant des journalistes qui rendaient compte des affaires que des habitants de la région, la façon de se conduire, de s'occuper de leurs enfants?
Alors, pour autant qu'on puisse en juger, parce que les études sur ce genre de cas doivent s'étendre sur des années, prendre beaucoup de soin à aller interroger une multitude de gens, pour autant qu'on puisse en juger, d'une part, la manière dont les journalistes ont traité le fait divers a effectivement changé. Au moment de l'affaire Dutroux, il y a eu beaucoup de débats d'ailleurs, des journalistes entre eux qui s'interrogeaient sur la manière dont ils pouvaient couvrir des affaires qui touchaient énormément, qui choquaient, qui émouvaient ceux qui avaient affaire à ça. D'autre part, on peut postuler que les usages que les gens ont fait des médias et la manière dont ils les ont réintégrés dans leur propre vie ont également changé. On n'a plus, sans doute, et ça paraît relativement évident même chez nous à l'heure actuelle, considérer l'enfant tout à fait de la même manière après une médiatisation comme celle-là qu'avant. Ce qui est intéressant peut-être aussi de noter dans l'affaire Dutroux en Belgique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en citant Michel Maffezoli, le sociologue. On a vu en Belgique, autour de l'affaire Dutroux, se créer cette forme de réunion autour d'une histoire de la souffrance de quelques personnes qui avaient été impliquées dans ces faits divers. On a vu se créer une forme de communauté qui a discuté entre elles, qui a échangé des connaissances que n'avaient pas forcément ceux qui n'étaient pas touchés par le contexte médiatique belge. C'était intéressant à l'époque de se rendre en Belgique et d'en sortir pour voir à quel point cette affaire, au fond, occupait les consciences et créait une forme de lien qui pourrait correspondre à ce que Michel Maffezoli évoquait dans son ouvrage.
Mais sur le plan de la médiatisation, le fait divers est pratiquement la vache à lait des médias.
Il l'a été depuis le début de la presse de masse.
Et on n'a pas encore déterminé si cela correspondait à une volonté du lecteur ou à une médiatisation extrême pour appâter le chaland.
C'est certain. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dès le début de la presse de masse en France, 1863, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait divers a été très présent dans les pages des journaux comme Le Petit Journal, Le Petit Parisien. Et puis, ce qui est certain aussi, c'est qu'il a fait décupler les tirages de ces journaux-là. On a un exemple tout à fait parlant, qui est celui de l'affaire Troppmann, intervenue en 1869, c'est-à-dire 6 ans après le début de l'apparition du Petit Journal. L'affaire Troppmann, du nom de ce présumé criminel, accusé d'avoir assassiné une famille et de l'avoir enterré dans la plaine de Pantin, près de Paris. L'affaire Troppmann a fait exploser les tirages du Petit Journal en une année. Du moment où on a arrêté Troppmann au moment où on l'a guillotiné, le Petit Journal a décuplé ses tirages. Et il avait décidé de couvrir cette affaire, de la suivre de très près. Il avait envoyé des reporters, il a consacré un nombre de pages incalculable à cette affaire. Et au fond, le succès du Petit Journal et le décuplage de son tirage sont liés, c'est le moins qu'on puisse dire, à la présence du fait divers lui-même. Il y a d'autres raisons pour expliquer l'apparition de la presse de masse. Ce serait réducteur de dire que c'est seulement le fait divers qui a fait son succès. La presse de masse n'a été possible qu'à partir du moment où une frange suffisante de la population savait lire, qu'à partir du moment où, la publicité aidant, on a pu vendre le journal moins cher, à un sou, Le Petit Journal. Donc il y a bien des conditions, à partir du moment aussi, où on a pu le transporter d'un côté à l'autre de la France sans perdre trop de temps, puis c'était le journal du jour. Donc il y a bien des raisons qui expliquent l'explosion et le succès de la presse de masse, mais ce qui est certain, c'est que le fait divers est un de ces facteurs. Ce succès se retrouve à l'heure actuelle, ça n'est pas nouveau. Le fait divers fait vendre.
Et la liaison entre la publicité pour le fait divers et puis celle qui l'accompagne financièrement dans le journal.
Bien sûr, un journal qui est vendu 2 fois aux annonceurs et au public.
Et c'est ce qui a permis. Connu. Vous aviez noté que c'était ce qui avait permis de passer d'une presse d'opinion à une presse plus libre.
Alors. Je pense pas l'avoir dit comme ça. Je note avec les historiens de la presse que avant la presse de masse, la presse était une presse d'opinion. Et puis, au moment de l'apparition de la presse de masse, je parle de la France, parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. À partir du moment où la presse de masse est parue, elle s'est voulue en partie apolitique, c'est-à-dire qu'elle a voulu éviter les sujets qui fâchaient et qui lui faisaient courir des risques par rapport au pouvoir en place à l'époque. Elle se distinguait notamment parce que l'opinion y était beaucoup plus mesurée et à partir de là, la profession de journaliste est apparue également. On ne connaissait pas les journalistes tels qu'on les connaît à l'heure actuelle avant ces années-là. Les journalistes sont devenus une profession, ont commencé à se donner des principes parmi lesquels l'actualité, la vérité, l'objectivité qui n'étaient pas des principes de base précédemment. Et puis la presse a muté. Alors est-ce que c'est pour un bien ou pour un mal ? Le débat est autre. En tout cas, on peut observer que la presse a changé et que le fait divers a participé à ce changement.
Vous avez choisi cette chanson d'Edith Piaf pour illustrer.
Est-ce gourdé rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour.
Vous aviez choisi Edith Piaf avec la goualante du pauvre Jean.
Oui, je l'ai choisie parce qu'elle ressemble à ces chansons qu'on trouvait à la fin du 19e siècle, que chantaient des gens comme Aristide Bruand, les chansons de la pègre, du jeune homme qui a mal tourné, qui faisaient partie de l'explosion des récits de crimes dont on a parlé tout à l'heure. Cette fin du 19e siècle racontait à n'en plus pouvoir, à travers tous les médias disponibles, des histoires de crimes, et notamment les chansons. Celle-là ressemble, je ne sais pas exactement si elle vient de cette période-là, mais en tout cas elle ressemble très fort à ce qu'on chantait à l'époque, des destins malheureux, de jeunes criminels perdus dès la fleur de l'âge.
Annick Dubié, d'où vient ce phénomène que le fait divers soit un genre regardé de haut, mais que tout le monde non seulement lit, mais réutilise, puisqu'ils sont la base de nombreux films, romans et autres?
Alors, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde dans l'histoire, c'est une matière d'abord et avant tout populaire, qui par la suite a parfois été goûté par les lettrés. Et puis, ce qui est certain aussi, c'est qu'en tout cas, en matière d'artistes qui s'inspirent du fait divers, on se cache de moins en moins, et on cache de moins en moins que son inspiration vient du fait divers. Pour vous donner un exemple, Le Rouge et le Noir de Stendhal est inspiré d'un fait divers qu'on retrouve dans les occasionnels et les journaux judiciaires de l'époque. Simplement, le héros, entre guillemets, de ce fait divers ne s'appelait pas Julien Sorel, mais c'était un dénommé Berthet. Et puis Madame de Rênal s'appelait Madame Michou. Stendhal a transposé ce fait divers et l'a sublimé, évidemment, dans son roman, tout en y restant relativement fidèle, puisqu'on trouve sur le papier des journaux judiciaires de l'époque la description de la scène de l'élévation au cours de laquelle Julien Sorel tire sur Madame de Rênal, pratiquement telle qu'elle dans le roman de Stendhal. Elle est décrite avec les mêmes détails, avec les mêmes moments et le même rythme. Stendhal ne s'est jamais caché de s'être inspiré d'un fait divers de l'époque. On soupçonne un autre grand auteur de l'époque, Flaubert, de s'être inspiré également d'un fait divers pour Madame Bovary. Par contre, lui s'en est toujours défendu. Et très souvent, les auteurs se défendaient d'avoir puisé leur inspiration dans une matière aussi peu recommandable. À l'heure actuelle, pour autant que je puisse en juger, c'est beaucoup moins le cas. D'une part, on déclare plus volontiers qu'on s'inspire d'un fait divers. D'autre part, les procédures qui consistent à reprendre un fait divers et à se l'approprier se professionnalisent. On connaît des cas d'auteurs qui ont contacté un journaliste tout de suite après qu'il ait écrit un fait divers pour lui dire que ça l'intéressait de le reprendre. On connaît aussi des dossiers qui sont préparés à l'attention d'artistes ou de personnes qui souhaiteraient s'inspirer d'une matière fait divers pour faire un film ou pour faire un ouvrage. Donc on se professionnalise dans la manière de s'inspirer des faits divers et on le déclare de plus en plus. Alors ensuite on argumente, il reste cette espèce d'opprobre sur le fait divers qui fait qu'on doit se justifier tout de même, de dire mais pourquoi est-ce que vous êtes inspiré d'une matière pareille. Donc on en vient, pour les auteurs que j'ai étudiés, à dire qu'au fond le fait divers présente tous les ingrédients d'un bon scénario. Il y a des personnages, souvent stéréotypés, il y a une surprise, une rupture, un retournement. Il y a quelque chose qui dépasse presque la fiction, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Les auteurs qui s'inspirent de faits divers disent souvent ça. Au fond, il ne me restait plus qu'à raconter, c'était incroyable cette histoire. Si je l'avais inventée, on ne m'aurait pas cru. Donc ce sont souvent des arguments qu'on reprend en disant, mais au fond, le fait divers présente tout ce qu'il faut pour faire un très bon ingrédient. De films, de livres, la plupart des auteurs qui s'inspirent du fait divers en viennent également à dire qu'au fond, eux sont là pour donner du sens, pour donner un sens supplémentaire à ce qui a été raconté et qui souvent les a laissés insatisfaits.
Pourtant, il n'y a pas toujours eu cet opprobre, puisque je crois que le magazine qui a traité le plus longtemps les faits divers s'appelait Détective, et il a été fondé, d'après votre livre, par Joseph Kessel. Oui. Et également d'autres écrivains de l'Académie française faisaient partie de la rédaction.
Absolument. À l'époque où Détective, qui paraît toujours d'ailleurs à l'heure actuelle sous le nom de Le Nouveau Détective, à l'époque où il a été fondé par Gallimard, la maison d'édition, qui, pour le faire fonctionner, a demandé à ses auteurs maison de bien vouloir y contribuer. Georges Simenon, sous un pseudonyme, y a signé quelques articles. Très vite, pour autant qu'on sache, mais une étude reste à faire sur ce journal-là, très vite, ces auteurs-là se sont éloignés de ce journal, mais il était né dans un cadre plus légitimé culturellement. Et puis, ce qui est intéressant à souligner à propos de ce journal, c'est qu'il a vécu jusqu'à nos jours. C'est le seul journal de faits divers francophone, à ma connaissance, qui paraît encore aujourd'hui, qui a derrière lui plus d'une septantaine d'années de parution. Il se vend bien, apparemment, beaucoup par abonnement. C'est un journal qui, quoi qu'on en pense, est intéressant à étudier, en tout cas pour des gens comme moi, pour essayer de comprendre ce qui fait qu'il se vend, qu'il continue, qu'il paraît, et qu'il se retourne parfois lui-même sur son propre passé. Il appartient pratiquement à l'histoire du fait divers à l'heure actuelle.
Et un fait divers qui est toujours la répétition d'un fait plus ancien. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stéréotypisation de ces faits divers.
Il y a une récurrence, alors on en a déjà parlé, à l'époque des occasionnels, il y avait une récurrence effective, on copiait les mêmes histoires pour les reprendre. À l'heure actuelle, évidemment, on retrouve souvent des schémas, des types qui reviennent, parce qu'au fond, Dieu merci peut-être, le répertoire du fait divers n'est pas infini. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont à la fois des histoires similaires qui reviennent, mais qu'à chaque fois, elles sont réinvesties, réhabitées, au fond, reprises. C'est à la fois toujours la même chose et toujours différent. C'est ce qui fait tout le paradoxe du fait divers.
Et certaines sont reprises, ont beaucoup de succès, comme par exemple la réappropriation de l'histoire des sœurs Papin, qui donne lieu, je crois, à plusieurs films.
Alors, on a connu dernièrement beaucoup de réappropriations de faits divers. Il y a eu l'histoire des sœurs Papin.
Qu'elles avaient fait, ces sœurs?
Les sœurs Papin avaient... elles étaient bonnes, au Havre, dans une famille bourgeoise, et elles ont massacré leur patronne et sa fille d'une manière extrêmement violente. C'est un crime qui a beaucoup étonné, beaucoup choqué les consciences à l'époque et qui visiblement a continué à intriguer les auteurs à l'heure actuelle. On a connu une fiction qui s'appelait Les blessures assassines sur cette histoire-là. On a connu aussi un documentaire avec à chaque fois cette tentative de comprendre. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, que lorsque les auteurs mettent les mains dans cette fange, entre guillemets, ils se vantent ou ils souhaitent, ils disent vouloir donner du sens, comprendre. En l'occurrence, sur les sœurs Papin, au fond, il s'agissait d'essayer de comprendre pourquoi ces femmes non seulement avaient tué, mais avaient tué avec une telle violence. Et ces films, notamment le documentaire, aboutissent à un échec de compréhension. C'est-à-dire que celle qui aurait dû pouvoir les expliquer, la seule des sœurs Papin survivante, est incapable d'expliquer parce qu'elle a perdu la mémoire. Le film s'appelle « Enquête des sœurs Papin », c'est un documentaire. Notons d'ailleurs que d'autres faits divers ont fait l'objet de réappropriation ces derniers temps. L'histoire de la bête de Gévaudan a donné lieu à un film qui s'appelle « Le Pacte des loups ». On a vu l'histoire de l'affaire Jean-Claude Roman donner lieu à deux films. L'emploi du temps de Laurent... J'ai oublié son nom, voilà. L'emploi du temps, et puis un film de Nicole Garcia qui s'appelait L'adversaire. Donc, visiblement, on n'en a pas fini avec ces manières de se réapproprier ces faits divers et de les remanier, de les pétrir pour leur donner du sens. C'est d'ailleurs une des vertus que des philosophes comme Paul Ricoeur attribuent au récit en général, qu'on pourrait répercuter sur le fait divers en particulier. Donner du sens au monde, faire tenir ensemble des choses insensées et leur donner du sens, même si c'est ponctuel, même si ce sens n'est pas satisfaisant.
Ce serait donc à ce besoin social de retrouver un sens que correspondrait cette avidité pratiquement pour la description de certains faits divers.
On pourrait s'avancer jusque-là, tout en précisant que Paul Ricoeur, lui, lorsqu'il a travaillé sur le récit, n'est sûrement pas allé à ce point-là. Par contre, l'idée que raconter des histoires comme celle-là, inessentielles, antidémocratiques au sens de Bourdieu, pourrait avoir pour sens de mieux se comprendre soi-même, de se comprendre avec les autres et de donner du sens à des affaires qui parfois sont insupportablement insensées, lorsque ce sont des grands faits divers.
Il y a aussi les faits divers qui sont détournés, qui n'ont jamais existé. Je pense à l'histoire récente du bagagiste d'Orly, qui était loin d'être un terroriste. Ça a été prouvé après, mais tous les médias l'ont stigmatisé ainsi. Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle dérive?
Je pense, dans le même ordre d'idées, à l'affaire du RER, de la jeune femme qui avait inventé une agression dans le RER. Ce qui est intéressant à propos de ces deux affaires, c'est leur capacité à montrer quelles étaient les préoccupations sociales à l'époque où elles sont sorties. Dans le cas de la jeune femme, il y avait les préoccupations d'antisémitisme, les préoccupations des violences jeunes dans les banlieues. Dans le cas du bagagiste d'Orly, cette peur de l'insécurité terroriste qui, visiblement, sont sorties dans ces faits divers et ont été travaillées, entre guillemets, racontées. On a tenté de les reprendre. Au-delà de ça, sur le travail journalistique, sur le travail aussi des sources, puisqu'un journaliste a toujours affaire à des sources qui, visiblement, en tout cas dans l'affaire du RER, avait elle aussi dysfonctionné. Il y aurait de quoi faire, mais ce serait sans doute trop long.
Donc, en conclusion, le fait divers serait surtout... son utilité serait de pouvoir donner un sens à notre quotidien, au monde en général.
En tout cas, on peut l'étudier en se disant qu'il a, il a sans doute cette fonction, au moins. Et en la matière, pour des scientifiques comme moi, il devient très intéressant parce qu'il constitue un objet intéressant, révélateur et fascinant, au fond.
Annick Dubié, je vous remercie. Et je rappelle que votre livre, Les Dits et les Scènes du Fait Divers, est publié par la librairie Drault.